Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Maïs Bestri, bonjour à tous. En Italie, cette fois, la coalition entre la Ligue du Nord d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles populiste vole en éclats. Le ministre de l'Intérieur a demandé la tenue d'élections anticipées, plongeant le pays dans l'incertitude. Dans ce journal, nous irons à Rome, rejoindre notre correspondante Marie Duhamel, et nous ferons le portrait de Matteo Salvini, homme fort du gouvernement, ancien sécessionniste devenu souverainiste, qui espère gouverner seul après avoir dynamité la droite italienne et phagocyté ses alliés. Cela fait aujourd'hui 20 ans que Vladimir Poutine a accédé au pouvoir en Russie. Nous irons à Moscou rejoindre Jean-Didier Revoin. Alors qu'en France, la production industrielle est en recul de 2,3% au mois de juin, selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Une des conséquences de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, nous dira Laura Dulieu. Et puis la reprise des négociations entre Chypre et la Turquie après 2 ans d'interruption. Le dialogue doit être rétabli aujourd'hui, nous dira Isabelle Labéry. Et puis à 12h45, ce sera la grande table d'été avec vous, Maïs Bessery.
Oui, absolument. Nous allons parler de l'exposition « L'histoire silencieuse des sourdes » à voir jusqu'au 6 octobre au Panthéon. Il y aura une vidéo d'ailleurs sur le site de France Culture à suivre en langue des signes avant de faire le portrait de la musicienne Léonie Pernet.
À tout à l'heure. C'est une nouvelle crise politique qui secoue ce matin l'Italie. En Italie, après 14 mois mouvementés, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, demande le divorce en réclamant des élections anticipées pour mettre fin au mariage très houleux entre la Ligue du Nord d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles populiste. Une décision inattendue qui a provoqué la colère du chef du gouvernement et du chef du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui ont accusé ensemble le ministre de l'Intérieur de vouloir capitaliser sur ses bons sondages sans se soucier du bien des Italiens. Marie Duhamel, bonjour.
Oui, bonjour.
En direct de Rome pour France Culture, les dossiers se sont accumulés ces derniers mois à propos de la crise des migrants, de la ligne TGV Lyon-Turin et avec aussi les résultats aux élections européennes qui ont conforté l'extrême droite italienne.
C'est l'un des dossiers justement que vous évoquez, la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, qui a été le déclencheur de la crise. Mercredi, une motion hostile au projet présenté par le mouvement 5 étoiles a été rejetée. Matteo Salvini a profité de l'échec de son allié pour demander un remaniement à la faveur de son parti. Il a exigé la démission de 3 ministres. Le ministre des Transports accusé de nuire à la modernisation des infrastructures, celle de la ministre de la Défense qui ne manifesterait pas assez de zèle pour contrôler la mer Méditerranée, démission enfin du ministre des Finances sans étiquette politique, mais trop proche selon lui de Bruxelles. Matteo Salvini se serait vu opposer une fin de non-recevoir par le président du Conseil, l'occasion pour lui de lancer son offensive, fort en effet de son triomphe aux élections européennes. Le soir même, en bord de mer galvanisé par ses fans, Matteo Salvini a expliqué que quelque chose s'était cassé au sein du gouvernement avant de suspendre sa tournée des plages hier pour annoncer le divorce au président du Conseil, réclamer donc ses élections anticipées, pointant du doigt les multiples blocages au sein de la coalition.
Le ministre de l'Intérieur estime que des élections anticipées sont nécessaires. Alors comment pourrait-elle se dérouler? Peut-on attendre un scrutin rapide ou bien un gouvernement technique dans un contexte politique marqué par l'incertitude, Marie?
Eh bien en fait, celui qui a la balle en main, c'est Giuseppe Conte, homme d'ordinaire conciliant. Il ne démissionnera pas de son plein gré. Il a sèchement et publiquement recadré Matteo Salvini hier soir. Ça n'est pas à un ministre de dicter le calendrier politique. Giuseppe Conte a souligné la légitimité de sa législature, de son travail, travail qui, dit-il, ne se fait pas à la plage. L'homme de loi ne partira que si le Parlement le décide et c'est donc le branle-bas de combat au sein des formations politiques avant une réouverture du Parlement, un vote de confiance dans les 10 jours, alors qu'un remaniement ou la formation d'une autre majorité parlementaire semble exclue, une dissolution du Parlement entraînerait la formation d'un gouvernement par intérim afin d'organiser des élections anticipées dans les 2 mois, c'est-à-dire en octobre, pile au moment où l'Italie devra boucler son budget, une mission déjà annoncée comme impossible. C'était le scénario le plus redouté par le président italien Sergio Mattarella, au cœur désormais de toutes les tractations politiques.
Merci Marie Duhamel, en direct de Rome pour France Culture. Il n'y appartient pas au ministre de l'Intérieur de décider du calendrier d'une crise politique, lui a répondu sèchement le président du Conseil, Giuseppe Conte, vous en parliez Marie à l'instant. Seul le président de la République, Sergio Mattarella, peut dissoudre le Parlement. Élise Delève, bonjour.
Bonjour.
Alors en quelques années, Matteo Salvini a transformé le paysage politique italien.
Et oui, Matteo Salvini, c'est l'interprète des humeurs de l'Italie. Le Milanais de 46 ans, barbu, un peu rond, a conquis un pays en proie au doute grâce au style Salvini. Des discours brefs, pas de costume cravate, un langage familier, voire populaire, des séances séances interminables de selfies et une utilisation optimale des réseaux sociaux. En 2013, lorsqu'il prend la tête de la Ligue, il transforme une droite moribonde minée par les scandales en modèle des nationalistes mondiaux. Il s'allie à Berlusconi, puis le lâche, reléguant l'ancienne figure politique au second rang. Véritable caméléon de la politique, Salvini adapte son discours en fonction des intérêts du moment. Après les législatives de 2018, il s'associe à son adversaire du mouvement anti-système 5 étoiles pour former un gouvernement. Il trouve des terrains d'entente, mais l'habile politicien veut poursuivre son ascension. Aux européennes, son parti obtient 34%. Salvini étouffe son partenaire entre mesures populistes et grands coups. Le ministre de l'Intérieur impose un abaissement de l'âge de la retraite malgré la crise économique, interdit aux ONG d'accoster pour y débarquer des migrants et réussit à faire extrader l'ancien terroriste d'extrême gauche Cesare Battisti. Une stratégie gagnante car les sondages le créditent de 36 à 38%. La route semble donc libre pour que Salvini, l'homme fort du gouvernement, devienne tout puissant.
Merci Alice Delève. Les migrants, vous en parliez à l'instant. Eh bien, l'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée, vient d'effectuer ce matin son premier sauvetage de migrants aux abords des côtes libyennes. Plusieurs dizaines de personnes ont été sauvées et sont désormais à bord du navire battant en pavillon norvégien. Le successeur de l'Aquarius a pris la mer dimanche soir depuis le port de Marseille. Un millier de manifestants se sont regroupés dans les terminaux d'arrivée de l'aéroport de Hong Kong, brandissant des banderoles et des tracts rédigés dans une dizaine de langues différentes pour sensibiliser les voyageurs à leur mouvement de contestation. La dirigeante de l'exécutif local, Carrie Lam, a déclaré dans une conférence de presse locale que l'inquiétude avait gagné les milieux d'affaires et que le ralentissement de l'activité économique avait gagné le territoire comme un tsunami, selon ses mots. Conséquence économique aussi de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur l'économie française, même si elle reste moins touchée que l'Allemagne du fait de son niveau beaucoup plus faible d'exportation, l'INSEE publie ce matin des chiffres qui montrent un nouveau recul de la production industrielle française. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Une production qui enregistre une baisse de 2,3% en juin.
Oui, c'est la plus forte baisse sur un mois depuis janvier 2018. Rien que la production manufacturière, c'est-à-dire sans compter l'énergie, a baissé de 2,2%. Tous les grands secteurs sont en recul, à part l'agroalimentaire. Alors attention, cette baisse fait suite à des hausses au mois de mai, 2% pour la production industrielle et 1,6% pour la production manufacturière. Tout cela donne donc un ralentissement sur l'ensemble du deuxième trimestre avec une progression de seulement 0,3% en France pour toute l'industrie. Vous l'avez dit, ces résultats ne sont pas sans lien avec la guerre commerciale qui fait rage entre États-Unis et Chine. Mais c'est en Allemagne que le coup est encore plus dur. L'Allemagne, où le poids de l'industrie est autrement plus important dans son économie, accuse une baisse de 1,8% de sa production industrielle sur le deuxième trimestre.
Et un autre chiffre de l'INSEE est publié ce matin, l'emploi salarié qui ralentit pour ce deuxième trimestre.
Oui, un peu plus de 62 000 créations nettes de postes dans le secteur privé en France au deuxième trimestre, soit une hausse de 0,3%. C'est beaucoup moins qu'au premier trimestre, mais là aussi ça ne sort pas de nulle part. C'est lié avec une croissance économique qui marque le pas en France à cause notamment d'un coup de frein de la consommation des ménages. Fin juillet, l'INSEE estimait la progression du PIB à 0,2% entre avril et mai, soit moins qu'il y a un an sur la même période, et moins également que début 2019.
Merci Laura Dulieu. On reste en France où le président de la République Emmanuel Macron a promis une réponse ferme, exemplaire et sans complaisance aux incivilités et la dégradation du sens de l'État et de la nation dans un message lu ce matin aux obsèques du maire de Signes. Message lu par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Nous partons maintenant en Russie, alors que le pays connaît une forte vague de répression policière ces dernières semaines, après le refus des autorités de laisser l'opposition se présenter aux élections municipales de plusieurs grandes villes, notamment Moscou. La Russie a convoqué un diplomate de l'ambassade des États-Unis à Moscou pour protester contre ce qu'elle considère comme une ingérence en faveur de l'opposition via la publication sur les réseaux sociaux de messages sur la manifestation de samedi dernier, manifestation réprimée par la police. Cette vague de protestation est la plus forte à laquelle Vladimir Poutine est confronté depuis son retour au Kremlin en 2012. Vladimir Poutine qui détient le pouvoir en Russie depuis 20 ans maintenant. J'en dis revoir.
Vladimir Poutine est d'abord l'homme qui a rétabli l'ordre après le chaos qu'a connu la Russie durant la décennie Yeltsin. Au début des années 2000, aidé par la hausse des prix du pétrole, Vladimir Poutine reste pour la majorité des Russes l'homme qui a fait en sorte que les retraites soient payées à temps, qui a rétabli l'ordre dans les rues en mettant fin au règlement de compte entre mafias et qui a mis au pas les oligarques. Une amélioration des conditions de vie qui s'est également traduite par un redressement marqué du pouvoir d'achat des citoyens au sein d'une société plutôt libérale et progressiste. Mais en 2004, un changement s'opère. La révolution orange place à la tête de l'Ukraine un pro-occidental, une ingérence de l'Ouest pour le Kremlin qui marque un tournant. Vladimir Poutine va progressivement tourner le dos aux valeurs libérales qui ont marqué son premier mandat pour nourrir un conservatisme croissant, s'appuyant sur les valeurs traditionnelles de l'Église orthodoxe pour faire reculer les libertés publiques afin de préserver l'ordre, la sécurité et son pouvoir. Dès 2008, les conflits géorgiens, libyens, ukrainiens et syriens vont marquer la nette distanciation entre l'Occident et la Russie, tout en faisant d'elle un acteur incontournable sur la scène internationale. Si Vladimir Poutine a rendu leur fierté aux Russes, les récentes manifestations durement réprimées démontrent que son système s'essouffle et que des réformes sont nécessaires. Président jusqu'en 2024, Vladimir Poutine saura-t-il les mener à bien et faire mentir ceux qui pensent qu'il fait tout pour rester au pouvoir sans se soucier de la population? C'est ce que les Russes se demandent.
Un dossier complet à retrouver en ligne sur franceculture.fr. C'est leur première rencontre officielle depuis près de 2 ans. Les dirigeants chypriotes grecs et turcs doivent se retrouver aujourd'hui sous l'égide des Nations Unies pour relancer les négociations sur la réunification de l'île divisée depuis 1974. Les discussions vont tourner autour d'un sujet majeur, les forages de gaz au large de l'île, une ressource prometteuse que se disputent les Grecs et les Turcs, Isabelle Labéry.
3 jours avant la reprise des discussions, histoire de mettre la pression, le ministre turc de l'énergie s'est déplacé en personne sur le Yavuz, un navire de forage qui stationne au nord de l'île. « Nous allons chercher le gaz », a dit le ministre. « Nous sommes déjà à plus de 1700 mètres de profondeur ». Et un nouveau bateau d'exploration sera sur zone d'ici la fin du mois. Hier, c'est le ministre de la Défense qui en a remis une couche, expliquant que les chypriotes turcs au nord avaient, tout autant que les Grecs au sud, le droit d'exploiter la ressource offshore. Ankara donc ne se prive pas d'aller explorer les gisements au sein même de la zone économique exclusive de la République de Chypre, État européen et seule partie de l'île reconnue au niveau international. Les mises en garde de Washington et Bruxelles n'y font rien. Il y a un mois, tout juste, l'Union européenne, qui aimerait faire de Chypre son nouveau fournisseur de gaz aux dépens de la Russie, a revu à la baisse les aides prévues pour la Turquie l'an prochain, 146 millions d'euros en moins. Pas suffisant pour freiner les ambitions de Recep Tayyip Erdogan. Ces tensions viennent donc perturber des négociations déjà difficiles, au point mort même depuis 2 ans. Mais le gouvernement de Nicosie l'assure, nous ne réglerons cette question du partage des richesses que lorsque nous aurons trouvé un accord de paix.
Isabelle Labéry. Aux États-Unis, le géant Bayer serait prêt à verser 8 milliards de dollars pour mettre fin à plus de 18 000 plaintes aux États-Unis liées au Roundup, l'herbicide de Monsanto accusé de provoquer des cancers selon l'agence de presse Bloomberg ce matin. Alors que le rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat des Nations Unies, prône un changement radical des modes de production agricole et de l'alimentation, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées depuis le 31 juillet dernier à Kingersheim, une commune du Haut-Rhin, à quelques kilomètres de Mulhouse, pour la 3e édition du camp climat organisé par Alternativa et les Amis de la Terre notamment. Un camp de formation au militantisme et à l'activisme écologiste pour faire face à l'urgence climatique. Le maire Joe Spiegel n'a pas hésité une seconde à accueillir gratuitement ce rendez-vous sur sa commune, même si l'objectif de ce camp est d'apprendre notamment la désobéissance civile.
J'entends bien que le débat, c'est important. J'entends bien que les marches pour le climat, c'est une chance. Et j'entends bien que la désobéissance civile est un élément important. Alors, c'est vrai qu'à côté, la démocratie construction, de labourer le terrain en profondeur, de travailler sur du concret, d'être confronté au principe de réalité, de co-construire un plan climat, évidemment, c'est de nature différente que des moments, un punching un peu comme ça, comme la désobéissance civile. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, où la prise de conscience doit être accélérée, où les gouvernements doivent vraiment changer de paradigme, je pense que c'est un devoir public aujourd'hui, et l'éthique de responsabilité, que d'être désobéissant civilement sur un certain nombre de sujets. Je crois qu'il n'y a plus le choix aujourd'hui. Et en fait, c'est même pas seulement pour nos jeunes et les enfants de nos enfants, c'est même pour aujourd'hui. Il y a déjà des millions de gens qui meurent du fait de la pollution de l'atmosphère. Donc on ne peut même pas dire que c'est pour nos générations, c'est aujourd'hui. Les immigrations climatiques vont se démultiplier, c'est rien ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à demain. Donc je pense qu'il faut vraiment pousser les gouvernements à changer de paradigme. Je suis en responsabilité depuis très longtemps, donc je tiens un discours de responsabilité. Et je sais que ce n'est pas facile, mais je pense que c'est une raison de plus d'associer associations, syndicats, citoyens, à co-construire un projet qui fasse sens et qui redonne espérance aux gens, à la politique, mais aussi à la planète.
Joe Spiegel, le maire de Kingersheim, au micro de Fiona Mogadam pour France Culture. La météo, 26 départements de la Haute-Garonne aux Ardennes sont en vigilance orange pour risque d'orages violents. Aujourd'hui, les fortes averses devraient commencer en début d'après-midi dans les départements du centre-est avant de toucher notamment les départements occitans jusqu'à la Meurthe-et-Moselle. En fin d'après-midi, des chutes de grêle et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 km/h sont annoncées. Les températures sont comprises cet après-midi entre 24 et 34 degrés, avec 24 degrés à Brest, 28 degrés à Paris et jusqu'à 34 degrés à Nîmes. C'est la fin de cette édition préparée avec Benjamin Ducy. Prochain rendez-vous d'actualité sur France Culture, ce sera le journal de la rédaction. Rendez-vous à 18h.